commençons par la question de la retraite, puisque c'était la première question qui était venue et qui d'ailleurs est venue en cours d'exposé. Oui, on vit un petit peu plus longtemps qu'autrefois, moins que on l'a dit parfois. Les chiffres officiels, c'est pas 3 mois de plus par an, c'est la moitié de ces 3 mois. C'est un mois et demi.
Depuis 10 ans, ça fait au moins, c'était 2 mois.
Voilà. Donc, il y a, c'est vrai, une certaine augmentation qui n'est pas aussi importante qu'on l'avait cru il y a quelques années et dont on ne sait pas jusqu'à quand elle va durer. Parce que il n'est pas impossible que l'espérance de vie cesse d'augmenter pour plusieurs raisons. D'abord, si les difficultés s'accroissent, regardez ce qui s'est passé à l'Union soviétique, à la fin de la période de l'Union soviétique, et ça a duré pendant quelques années après, il y a eu une diminution de l'espérance de vie qui n'était pas négligeable. Donc, en situation de grave crise et durable, il n'est pas impossible que ce mouvement s'arrête. Et puis, deuxième raison.
Déjà le cas aux États-Unis.
Bon, donc, on a déjà des expériences, effectivement, qui devraient nous alerter. Et puis, deuxième raison, si on fait travailler beaucoup plus, bien, ça va raccourcir l'espérance de vie. Effectivement, travailler aux âges qui le mien, par exemple, ça fatigue beaucoup. Alors, question de plaisanter, est-ce que c'est aberrant, puisque c'est comme ça que vous avez posé la question, est-ce que c'est aberrant de dire que plus on vieillit, plus on vit longtemps plutôt, plus il faut travailler longtemps? Il y a un élément qui est toujours omis dans cette proposition, dans cette assertion, mais toujours, il n'y a pas une fois où on entend un économiste officiel et un membre d'un gouvernement qui a conduit les réformes, les dites réformes de retraite, il n'y en a pas un qui ait jamais mis sur la table le phénomène suivant, c'est que pendant que la démographie évolue, l'économie ne reste pas dans le même état. Et donc ce qu'il faut toujours comparer, c'est l'évolution de la démographie, là en l'occurrence l'espérance de vie qui augmente pour l'instant en tout cas, et l'augmentation de la richesse produite éventuellement. Et l'omission de ce deuxième aspect est proprement mensonger. Alors on ne peut pas, ce soir je ne peux pas vous dire si la richesse va continuer d'augmenter dans les années à venir. D'abord parce que la récession va s'installer avec une grande probabilité. Ensuite, il ne faut pas faire de paris trop élevés sur la future croissance économique parce qu'on a une crise écologique. Mais bref, il y a un tas de raisons qui font que les progrès de la productivité, sans doute à l'avenir, seront plus faibles qu'auparavant. Mais quel que soit le niveau, et plus d'ailleurs, si le gain de productivité serait modéré, voire faible, plus l'exigence de partage de ces gains s'imposerait. Et donc ce qu'il faut toujours mettre en rapport, c'est l'évolution de la richesse avec l'évolution de la démographie et la manière dont on partage la richesse. C'est pour ça que tout l'an dernier, il y a depuis plusieurs années d'ailleurs, on a bataillé sur l'idée que la question de la retraite, c'est d'abord une affaire de répartition, mais au sens propre du terme, pas simplement parce qu'on a affaire à un système dit comme cela, dit par répartition. C'est parce que c'est une question de répartition de la richesse produite. Est-ce que les gains de productivité vont aller vers les actionnaires, comme c'est le cas depuis 30 ans, ou bien est-ce qu'ils vont aller vers les salaires, ou est-ce qu'ils vont aller vers la réduction du temps de travail, est-ce qu'ils vont aller vers le nombre d'emplois supérieurs, ou est-ce qu'ils vont aller en cotisations sociales supplémentaires pour financer l'assurance maladie, l'assurance retraite, etc. C'est là le vrai problème. Donc, oui, l'espérance de vie augmente, vous avez raison de le rappeler, seulement si on ne dit pas en suivant qu'il y a un problème d'affectation de la richesse produite, eh bien, on est à côté de la plaque et on ment à la population en lui disant que puisqu'on vit plus vieux, il faut travailler plus longtemps. Il y a 200 ans, au 19e siècle, nos ancêtres travaillaient deux fois plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaille entre 1500 et 1600 heures par an en moyenne dans nos pays. Ils travaillaient 3000 heures par an. Ils travaillaient 3000 heures par an. Et donc, en travaillant 3000 heures par an, ils produisaient 20 ou 30 fois de moins que nous avec nos 1500 heures. Donc, la sécurité sociale a été inventée en 1945. L'économie était par terre. Et on a pu construire une sécu. Aujourd'hui, on est 10 fois, 15 fois plus riche qu'en 45, et on ne pourrait plus. Bon, donc c'est ça la vraie question. Bon, maintenant, vous avez eu raison de la poser pour qu'on puisse rappeler ce point. Ensuite, il y a tout un tas de questions que je vais regrouper. Et auparavant, je vais dire un mot à votre question là, sur bon, C'est une question effectivement qu'on apprend aux élèves, aux étudiants en économie, carré magique. Le carré magique, c'était une expression qui était, avait été inventée pendant la période d'après-guerre, pendant les 30 Glorieuses. Le carré magique, c'était le, ça symbolisait un schéma, un carré, où on avait aux quatre coins quatre objectifs. Une croissance économique, faible chômage ou emploi, un bon emploi si vous voulez, faible inflation et commerce extérieur équilibré. Bon, on a vu. Alors, donc le carré magique, c'était, c'était censé représenter la situation idéale, c'est-à-dire que sur les quatre objectifs, on était au top. Plus personne ne parle de carré magique parce que justement, l'emploi, cata, l'inflation, il n'y a plus d'inflation, mais au prix de ce qu'on a dit tout à l'heure, la croissance, la cata, et l'équilibre extérieur, la cata. Bon, donc il n'y a plus de carré magique. Et alors, mais cette question est intéressante parce qu'elle permet de passer au groupe de questions qui tournent autour du même sujet, sur la monnaie, la création monétaire, qui c'est qui emprunte, à qui on emprunte, etc. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la création monétaire? C'est une expression qui désigne le fait que le système bancaire, alors les banques ordinaires, BNP, Crédit Agricole, etc., Société Générale, etc., etc., les banques ordinaires et la banque centrale au-dessus d'elle, parce que la banque centrale, grosso modo, on peut la définir comme la banque des banques, la création monétaire désigne le fait que le système bancaire dans sa totalité, banque ordinaire plus banque centrale, met en circulation plus de liquidités qu'il n'en circule déjà. Et à quelle occasion le système bancaire met en circulation plus de monnaie qu'il n'en circule déjà? Eh bien, lorsque le système bancaire accorde des crédits aux entreprises pour investir, aux ménages pour consommer, pour acheter leur appartement, ou aux États quand ça ne leur est pas interdit. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, lorsqu'il y a, pendant, mettons, une année, une quantité de X milliards de nouveaux crédits qui sont accordés, dans le même temps, il y a une quantité de remboursements qui sont effectués des crédits antérieurs. Et le solde entre les deux, et en général ça va en augmentant, je vous l'ai montré avec le graphique tout à l'heure de la BCE, le solde, la différence entre le montant des nouveaux crédits et le montant des remboursements de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle la création, donc il y a eu X moins Y milliards d'euros, X milliards de nouveaux crédits, Y de remboursements, X moins Y milliards d'euros de créer en supplément de ceux qui circulaient déjà. C'est ça qu'on appelle la création monétaire.
En théorie, si c'est bien fait, il correspond à la croissance, et ce qui fait qu'il n'y a pas d'inflation.
Alors, la discussion vient effectivement du fait que s'il y a un décalage trop important entre le rythme d'évolution de la richesse réelle, la production de biens et de services, et le rythme d'évolution de la masse monétaire, il y a un risque d'inflation. Et c'est ce risque que mettent en avant les libéraux, de manière générale, pour dire qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait trop de création monétaire, et surtout pour faire des dépenses publiques. Vous voyez la cohérence du raisonnement. Alors, est-ce qu'il y a ce risque? Ce risque n'est jamais nul. Seulement, il est quasiment nul, voire totalement nul, c'est ce qu'expliquait Keynes dans les années 30, il est totalement nul, ou quasiment nul, lorsqu'on est en situation de récession. Parce qu'en situation de récession, ça veut dire qu'il y a une quantité de main-d'œuvre d'abord qui est au chômage et d'équipements productifs qui sont sous-utilisés. Et donc les capacités de réponse du système productif à une relance monétaire, eh bien, sont intactes. Et donc, dans une situation de récession, vous avez très peu de risques d'inflation. En revanche, le risque que vous avez si vous ne faites rien, c'est de voir le chômage accentuer la récession accentue le chômage dans un cercle infernal. Et donc, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai prononcé son nom deux fois, donc je dis deux mots sur lui, c'est la raison pour laquelle Keynes pensait dans les années 30, pour remédier à la crise donc, qui sévissait sous ses yeux en Europe et aux États-Unis à l'époque, il proposait justement que l'État prenne le relais du secteur privé défaillant en lançant des investissements publics, c'est-à-dire en acceptant temporairement qu'il y ait peut-être un déficit du budget, mais qui serait compensé par le surcroît d'accroissement de la production qui viendrait à la suite de l'investissement public. Et donc, c'est ce qui avait donné lieu à ce qu'on a appelé après-guerre le keynésianisme, qui avait inspiré de manière assez générale, les politiques économiques de cette période avant que le libéralisme reprenne du poil de la bête dans les années 70-80. Et d'ailleurs, le fait qu'il ait autant repris du poil de la bête montre que les mesures qu'il a engagées et mises en œuvre avec ténacité et une violence rare, vu les dégâts sociaux qu'il a provoqués, montre que c'est même cette violence-là, des contre-réformes qu'il a mises en place, que les libéraux ont mises en place, n'ont pas réussi à résoudre les contradictions que Marx avait déjà bien repérées au XIXe siècle et qui nous reviennent en pleine figure aujourd'hui. Parce que la crise à laquelle nous assistons, elle était décrite dans le moindre détail dans l'œuvre dans le Capital de Marx, l'œuvre majeure de Marx, de la même façon que si vous relisez le roman de Louis Zola, L'argent, vous avez exactement la crise actuelle qui est décrite. C'est, donc on a une récurrence des crises du capitalisme qui revient avec d'autant plus de force que la finance a imposé ses règles à toutes les sociétés depuis maintenant 30 ans.